Retour à la maison de la radio pour le journal de Maxime Debs. Bonjour Maxime.
Bonjour, bonjour à tous. Parce qu'ils ne veulent pas avoir à choisir entre vivre aujourd'hui et survivre demain, des centaines, plutôt des milliers de personnes à l'appel de 140 associations défilent cet après-midi à Paris, en région, une grande marche pour supplier les politiques de ne plus reculer face à l'urgence climatique. Les défenseurs pour une planète plus belle qui risque de croiser sur leur chemin des gilets jaunes, 18e samedi de mobilisation avec pour certains l'espoir d'une convergence des luttes et des premiers affrontements ce matin sur les Champs-Élysées. Aveu de faiblesse, au PS ou non, le parti se réunit aujourd'hui pour déterminer sa stratégie en vue des européennes et pourrait décider de s'aligner sur le mouvement Place publique de Raphaël Glucksmann. L'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll, pas content, évoque une mauvaise plaisanterie. Le député PS Luc Carvounas sera avec nous pour en parler. Dans ce journal également, le représentant du Vatican en France, plus que jamais menacé. La ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui se remet avec difficulté du carnage de la veille. Le rugby avec le 15 de France qui joue pour l'honneur cet après-midi. Et l'idée sortie du week-end, le salon du livre à Paris avec le roman coup de cœur de la rédaction à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est un nom qui rappelle celui d'une émission télévisée, mais les émissions dont on parle ici sont bien ancrées dans la réalité. La marche du siècle, organisée aujourd'hui dans plus de 70 villes en France, doit permettre d'interpeller les politiques sur le climat, leur dire que c'est maintenant qu'il faut agir, pas demain. Demain qui n'a jamais paru aussi incertain. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Sandy, vous êtes, vous concernant Place de l'Opéra à Paris, où doivent converger plusieurs cortèges, y compris des cortèges de gilets jaunes.
Oui, plusieurs cortèges sont partis de divers endroits dans Paris ce matin pour se retrouver ici à 14h. Un défilé sur la biodiversité, un autre à vélo, une marche dite contre les violences policières. Et puis, il y a aussi un cortège pour le climat. Et sa particularité, c'est que les associations de défense de l'environnement marchent côte à côte avec des gilets jaunes. Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace.
Plusieurs essayent, et notamment au sein du gouvernement, essayent de dissocier ces deux mouvements en disant qu'on ne peut pas à la fois œuvrer pour la fin du mois et la fin du monde. Et nous, on pense que si, bien au contraire, que beaucoup des mesures qu'on porte sont à la fois bonnes pour la fin du mois et bonnes pour la fin du monde. Quand on travaille sur la rénovation du bâtiment, sur les économies d'énergie, il y a une convergence à avoir aujourd'hui entre les mouvements environnementaux, entre ce mouvement climatique et les mouvements sociaux.
Dans ce cortège vert et jaune, parti du Trocadéro vers midi, il y a Jean-Christian Valentin, gilet jaune parisien. Pas question d'opposer les deux combats, climat et pouvoir d'achat.
On s'occupe de fin du mois, comment résoudre les problèmes des gens qui ont du mal à payer leurs factures, et à la fois on veut également participer à transformer la planète. Comment demain, sur les 35 années, qu'on va pouvoir éliminer tous ces produits fossiles qui est le charbon, le gaz, le pétrole, et qu'on trouve des solutions ensemble. Il n'y a pas d'un côté les uns, d'un côté les autres. Je suis vert et jaune à la fois.
Chacun est libre. On n'oblige personne. Ceux qui veulent aller sur les Champs-Élysées, ils vont. Ceux qui veulent aller ailleurs, ils y vont.
Ici, place de l'Opéra, encore très clairsemé, un grand camion sono garé devant l'Opéra crache des décibels, recouvert d'une banderole, pas de planète, pas de fête, en attendant le départ à 14h.
Sandy Dauphin en direct de la place de l'Opéra à Paris avec à ses côtés Raymond Alouy pour la technique. Merci. Fin du monde, fin du mois, même combat, 18e séquence, 18e samedi de manifestation. Donc aussi pour les gilets jaunes, 4e mois de lutte quasiment jour pour jour et des policiers présents comme aux prémices du mouvement. 5000 policiers et gendarmes pour quadriller les rues de la capitale avec des premiers affrontements en ce moment. Place de l'Étoile, bonjour Mathieu Mondoloni. Mathieu Mondoloni, vous êtes aux Champs-Élysées où ça a chauffé ce matin?
Oui, effectivement, ça. Les affrontements qui ont débuté sur ces mêmes Champs-Élysées et puis ils se sont poursuivis tout autour de l'Arc de Triomphe face à des groupuscules très violents qui ont décédé une partie des pavés pour les envoyer sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles, ont répliqué par des jets de gaz lacrymogène, par l'emploi également du canon à eau à plusieurs reprises afin de disperser ces éléments les plus violents parmi les gilets jaunes. Et puis on se trouve actuellement sur les Champs-Élysées où là ce sont de nombreux magasins qui ont été pillés et vandalisés depuis un peu moins d'une heure maintenant. On est devant le restaurant Le Fouquet's, le restaurant très connu de Paris, qui a été totalement vandalisé. Les vitrines sont brisées, les tables et les chaises sont renversées. Certaines ont été brûlées à quelques mètres de là seulement, au milieu de la voie publique. Et de nombreux gilets jaunes passent devant Le Fouquet's. Certains se prennent en photo, d'autres regrettent ces actions, ces vandalismes qui, disent-ils, ne représentent absolument pas le mouvement, un mouvement qui avait parié sur cette journée pour se relancer. Il n'était que 28 000 la semaine dernière, ils étaient 10 fois plus le 17 novembre dernier. Aujourd'hui, ils espèrent être encore plus nombreux.
Merci Mathieu Mondoloni. En direct des Champs-Élysées, on parle aux dernières nouvelles de 44 interpellations. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonce l'action de professionnels de la casse et du désordre. Il vient de s'exprimer à l'instant.
Il y a, au moment où je vous parle, près de 7 à 8 000 personnes sur Paris, ce qui fait une petite manifestation. Je vous rappelle qu'hier, il y avait 29 000 lycéens qui manifestaient sur Paris. Mais au sein de ces 8 000 manifestants, il y a plus de 1 500 ultra-violents qui sont là et qui sont venus pour casser, pour en découdre, pour attaquer. Et dès ce matin, très tôt, ils l'ont fait en voulant à deux reprises au moins prendre d'assaut l'Arc de Triomphe, sûrement fiers qu'ils sont des saccages qu'ils avaient déjà commis le 1er décembre.
Plusieurs gilets jaunes appelés à encercler l'Élysée, à converger vers l'Élysée. Vous avez renforcé le dispositif au niveau de ces institutions.
Les institutions sont tous les samedis protégés. Nous n'avons pas besoin de les renforcer. Mais c'est Paris que je veux protéger. C'est les manifestants eux-mêmes, ce sont les commerçants, ce sont les Français qui peuvent librement circuler. On voit bien que les ultra-violents sont là, mais répondent aussi à l'appel de la violence de certains leaders des Gilets jaunes qui, effectivement, n'ont pas d'autre mot d'ordre aujourd'hui que de celui de, par la violence, voir survivre ce mouvement qui ne se survit aujourd'hui plus qu'à lui-même.
Leur colère à eux s'inscrit complètement dans le mouvement des Gilets jaunes, symbole d'une France ouvrière qui a l'impression d'être laissée pour compte. Les anciens salariés de GMS à la Souterraine dans la Creuse en appellent à l'État. Ils réclament le maintien de leur cellule de reclassement dont la mission s'arrête dans quelques jours à la fin du mois. Cellule qui avait été mise en place après le licenciement des 157 salariés de cet équipementier automobile. C'est simple, un an et demi après le plan social, 36 d'entre eux ont retrouvé un CDI. 8 ont créé une entreprise, tous les autres sont dans l'impasse. Alors pour se faire entendre, tard hier soir, Fabien Arnet, les GMS désespérés ont occupé la mairie de la Souterraine.
Quelques pétards pour marquer le coup. À peine une vingtaine de salariés et anciens salariés investissent la salle du conseil municipal, accompagnés d'une trentaine de soutiens et de quelques étudiants militants pour le climat.
Aujourd'hui, nous, on a surtout manifesté pour des raisons de réchauffement climatique. Mais ces deux mouvements, finalement, sont très liés parce qu'ils relèvent finalement d'un dédain du gouvernement, des autorités, des autres instances. Finalement, c'est un mouvement qui est tout à fait global. Allons-y, quoi. C'est parti.
Parmi les ex-JMS sans emploi, Jean-Pierre, 59 ans.
J'habite dans l'Indre, dans un endroit où que le travail va se faire rare aussi. Je suis à 70 km de Châteauroux. Donc après, s'il faut les travailler en intérim sur Châteauroux, 140 km par jour, en étant payé au SMIC.
Étienne Lejeune, le premier adjoint au maire de la Souterraine et président de la Comcom, est solidaire.
Près d'un quart des personnes n'ont aucune solution. Un autre quart a une solution précaire, donc ça fait grosso modo la moitié des gens sans solution aujourd'hui.
Après un entretien au téléphone d'une demi-heure avec la préfète, Vincent Labrousse est bredouille.
Elle nous a dit qu'on avait en fait mal interprété la phrase de Bruno Le Maire. Quand un ministre vous dit « personne ne restera au bord du chemin », ça veut dire que chacun trouvera une solution pérenne pour pouvoir construire son avenir et que l'État accompagnera. Visiblement, on a mal compris.
Seule lueur d'espoir de possibles aides à la mobilité pour les ex-GMS. Sauf revirement, vendredi prochain, ce sera la dernière séance de travail pour eux au sein de la cellule de reclassement.
Dans le cadre du grand débat lancé par le gouvernement, le parti communiste a lui remis aujourd'hui au Premier ministre Édouard Philippe ses 10 propositions pour la France. Parmi elles figure la hausse des salaires, dont le SMIC. Le parti souhaite aussi un plan contre l'exclusion, composé notamment du remboursement des soins à 100% et de l'indexation des retraites sur le salaire moyen. Le PS, lui, va-t-il faire liste commune aux européennes avec place publique, autrement dit s'effacer derrière le nouveau parti politique lancé par l'essayiste Raphaël Glucksmann? Apparemment oui, ce qui irrite au plus haut point Stéphane Le Foll. L'ancien ministre socialiste a décidé de claquer la porte du bureau national du PS face à ce qu'il considère comme une mauvaise plaisanterie. Avec nous pour en parler, le député PS Luc Carvounas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne, ancien sénateur maire d'Alfortville, et vous avez été aussi candidat à la tête du Parti socialiste avec ce slogan « Une gauche arc-en-ciel, des verts au Parti communiste, voire aux insoumis ». Olivier Faure, le premier secrétaire, est aujourd'hui en train de faire voter le principe d'une liste commune avec place publique. Vous avez des réserves, notamment sur la méthode qui a été choisie pour cette alliance ?
Permettez-moi avant de vous répondre d'abord d'adresser toutes mes pensées à nos manifestants pacifistes en ce moment à Paris et ailleurs, y compris pour nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants et la maire de Paris, parce que ce qui est en train de se passer encore une fois de manière très violente doit cesser. Le grand débat se termine aujourd'hui, il faut maintenant que le président de la République apporte des réponses très vite, très pragmatiques, notamment sur la question du pouvoir d'achat, pour que tout cela cesse. Pardonnez-moi d'avoir fait cet insiste, mais je ne pouvais pas me permettre de vous parler du Parti Socialiste sans avoir cette remarque qui me semble nécessaire et importante.
Voilà.
Ensuite, aujourd'hui, sur ce qui est en train de se dérouler, vous le savez, vous l'avez rappelé, moi, depuis maintenant plus d'un an, à l'occasion du Congrès, et puis au moment où j'ai créé la gauche arc-en-ciel au mois de septembre dernier à Marseille, je suis pour le dépassement, je suis pour que le Parti Socialiste s'ouvre à toutes les forces, y compris nouvelles formations politiques ou sociétés civiles. J'ai rappelé cela ce matin pour ne pas que le mois fasse un procès en accéléré comme quoi j'aurais changé d'avis. Je suis quelqu'un de toujours cohérent. Néanmoins, j'ai posé ce matin à la tribune différentes questions au premier secrétaire pour le mandat qui va lui être confié par bon nombre des siens, aujourd'hui au Conseil national. C'est dans quel cadre politique nous allons évoluer. Raphaël Glucksmann ne précise pas demain dans quel groupe lui-même siégera au Parlement européen, pour quel président il veut voter. Quel est notre programme? Quelles seront aussi les demandes financières de financement de campagne au prorata de ce que nous apportons, nous les socialistes? Quelles seront enfin les alliances? Quelles seront les alliances électorales? Si c'est pour me parler de nos écologistes de droite comme Cap 21, vous comprendrez que moi qui prône la gauche arc-en-ciel au moment où Olivier Faure le premier nous parlait d'un an d'identité socialiste, je ne ferai pas de cela, de ceux qui feront la confusion des genres. Donc j'ai dit ce matin que j'étais pour le dépassement, j'étais pour le rassemblement, j'étais pour discuter avec Raphaël Glucksmann que j'ai côtoyé au moment de la campagne de Benoît Hamon, là où certains de mes camarades tournaient la tête vers Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré avant qu'il lance son mouvement au mois d'octobre. Maintenant, j'imagine que d'ici le 6 avril, où il y aura une convention nationale du Parti Socialiste et que nous voterons dans un cadre politique de savoir si nous nous adossons à Raphaël Glucksmann ou si nous nous adossons à la nouvelle formation politique Place Publique. À ce jour, je n'ai pas bien compris très précisément avec qui nous nous marions à ce matin. Donc, voyez, pas de défiance de ma part, mais tout simplement, je souhaite que l'on définisse clairement un cadre politique. Ce n'est pas un chèque en blanc que je donne au premier secrétaire qui ensuite reviendra, comme je l'ai fait en décembre et en février, quand je lui ai donné mandat pour discuter, me dire « mais tu m'as donné mandat ». Oui, je lui ai donné mandat pour venir ensuite discuter dans le cadre du Parti Socialiste pour que nous avancions tous ensemble. Il y a un problème, il y a un discours de la méthode, il y a un problème aujourd'hui sur le fonctionnement très jupitérien d'Olivier Faure, c'est son choix, avec les siens, il est plus le chef d'une motion que le chef du Parti Socialiste. Moi, j'espère toujours à rassembler la gauche, évidemment, en premier lieu, à rassembler ma famille sociale.
Merci, Luc Carvonas, d'avoir été notre invité dans le journal de 13h.
Le journal de 13h, sur France Inter.
C'est une affaire qui ne va pas arranger l'image et les affaires de l'Église. Visée depuis janvier par une enquête pour agression sexuelle, le représentant du Vatican en France est plus que jamais sur la sellette. 3 plaintes ont été déposées ces dernières semaines contre lui et le parquet de Paris vient officiellement de demander à Yann Gallick la levée de son immunité diplomatique.
C'est un premier pas encourageant pour les victimes, une étape nécessaire. La levée de l'immunité diplomatique du nonce apostolique permettrait à la justice de l'auditionner et éventuellement de le confronter à ses accusateurs. Sachant que 3 plaintes ont déjà été déposées contre lui pour des mains aux fesses appuyées lors de réceptions, notamment à la mairie de Paris. Le ministère de la Justice doit transmettre le dossier au Quai d'Orsay, car il s'agit maintenant d'une affaire politique et diplomatique entre la France et le Vatican, explique Edmond-Claude Fréty, l'avocat de 2 des victimes.
Ce n'est qu'un début, parce qu'il faut encore que la France fasse cette demande officielle de levée d'immunité diplomatique, sachant que c'est le Vatican qui décidera si oui ou non il accepte la levée des diplomatiques du nonce apostolique. Compte tenu de l'actualité, ça nous paraîtrait quand même normal que les agressions sexuelles qui ont été dénoncées dans les plaintes soient jugées par les autorités françaises. L'Église doit montrer qu'il y a vraiment un changement d'attitude par rapport à ces questions-là. Ça nous permettrait de reconnaître les victimes dans leur statut de victime et d'avoir un procès équitable mais rapide devant les juridictions françaises.
En attendant, le ministère français des Affaires étrangères s'est engagé hier soir à relayer auprès du Vatican cette demande de levée d'immunité diplomatique.
Yann Gallic, là à Christchurch en Nouvelle-Zélande, le tireur à l'origine du carnage qui a fait 49 morts hier dans deux mosquées a été placé en détention et inculpé. Brenton Harrison Tarrant, un Australien d'extrême droite de 28 ans, a comparu cette nuit devant un tribunal de la ville. Aucune expression sur son regard, pas un mot, pas un regret exprimé. Comment a-t-il pu en arriver à commettre l'impensable sur place? Les Néo-Zélandais n'en reviennent toujours pas, eux qui croyaient vivre dans un pays paisible. Le choc est rude, comme nous le raconte Karine Otten, notre envoyée spéciale en Nouvelle-Zélande.
Assis sur son skateboard, en face des milliers de bouquets qui ont été apportés depuis ce matin à quelques mètres de l'hôpital, Joshua a 25 ans et le regard embué. Il n'en revient toujours pas de ce qui est arrivé à sa petite ville tranquille de Christchurch.
Je suis venu m'asseoir ici pour ressentir la tristesse de tout le monde. Je veux juste montrer mon respect à ces innocents qui sont morts sans avoir rien fait de mal. Je pensais qu'on était en sécurité, mais nous ne sommes plus en sécurité nulle part, n'est-ce pas ?
Linda, elle, est venue avec ses deux petites filles, Sophia et Kinka, chacune un bouquet dans la main. Elles y sont sorties dès que la police a jugé la situation hors de danger.
Je tenais à emmener les filles pour leur montrer que c'est comme ça qu'on répond aux actes terroristes, avec de l'amour et de la compassion. Oui, toute la nation est en deuil et le monde va être en deuil pour plusieurs semaines à venir.
Face aux grilles du jardin botanique, les enfants dessinent à la craie des messages positifs et d'unité. Pas question que ces massacres ébranlent les valeurs néo-zélandaises. À Christchurch, Karine Otten, France Inter.
Loin, très loin du Pays de Galles qui peut s'offrir le grand chelem cet après-midi en battant l'Irlande, le 15 de France tentera de panser ses plaies face à l'Italie aujourd'hui dans son dernier match du tournoi des Six Nations, match qui débute dans une toute petite demi-heure, Jérôme Val, avec un seul enjeu, l'honneur.
Oui, vous avez raison Maxime, l'honneur c'est un peu tout ce qui reste à sauver hein, dans ce 15 de France en pleine débâcle. Un résultat positif ici au Stadio Olimpico de Rome ne changera absolument rien au destin des Bleus dans ce tournoi. Une victoire de plus ou de moins ne les sauvera pas, surtout face à l'équipe qui n'a gagné aucun match depuis 4 ans dans le tournoi. Alors cette équipe de France joue en effet très gros, bien plus qu'un simple duel face aux voisins latins. À 6 mois de la Coupe du Monde, c'est tout simplement la crédibilité d'un groupe, d'un staff, d'une fédération qui est en jeu. Alors que le rugby tricolore sort de sa pire période depuis l'après-guerre, sous le règne de Jacques Brunel, le sélectionneur, les Bleus ont perdu 11 matchs pour seulement 4 succès. Pire, Maxime, depuis la finale perdue au Mondial en Nouvelle-Zélande il y a 8 ans, ces Bleus ont plus connu la défaite que la victoire. Alors quel comportement cet après-midi à Rome pour cette génération de losers ? Réponse dans 2 heures maintenant depuis Rome.
Jérôme Val en direct de Rome pour France Inter, on suivra ça avec vous et quand même allez les Bleus. Hein. Là, pas besoin d'aller jusqu'à Rome si vous êtes à Paris, que vous aimez lire, ça suffira, le Salon du Livre. C'est à partir de ce week-end, porte de Versailles, invité d'honneur cette année, l'Europe. Cette Europe ébranlée il y a 30 ans, ce 9 novembre 1989, jour de la chute du mur. Ce mur qui a tant marqué la vie de Christine de Mazières. Elle est magistrate à la Cour des comptes, elle lui consacre un livre, un magnifique premier roman, 3 jours à Berlin, et c'est le coup de cœur d'Ilina Mor-Youssef.
De Christine de Mazières, on connaissait la longue silhouette élégante et les manières courtoises d'une haute fonctionnaire tenue au devoir de réserve. Et voici qu'arrive ce roman et que se découvre une personnalité insoupçonnée, une enfance franco-allemande et des étés passés quasiment à l'ombre du mur de Berlin.
Ma biographie est traversée par ce mur. Je suis donc moitié allemande, j'ai une mère allemande. Et cette famille, qui est du nord de l'Allemagne, a aussi une branche qui était à l'est, dans le Mecklembourg. Je suis allée plusieurs fois en RDA, à l'époque. Et de là est né cet intérêt beaucoup pour cette autre Allemagne que j'avais déjà vue enfant quand, sur la plage de Travemünde, sur la Baltique, je voyais en face des miradors. Je voyais en face une autre Allemagne inquiétante.
3 jours à Berlin est le récit par plusieurs personnages du même événement. Il raconte la diversité des vies bouleversées par le mur et par sa chute. Micha, jeune dissident est-allemand, Anna, une Française amoureuse de l'Allemagne, l'histoire avec un grand H tient parfois à presque rien.
Ça s'est passé d'une manière spontanée à la suite d'un lapsus. C'est ce qui est fascinant. Ce mouvement tellement émouvant, les gens, la population, le peuple, va aux frontières, c'est la nuit, on est en novembre, il fait froid, il bruine, ils ont peur. Eh bien, tout à coup, la peur se transforme en espoir.
9 novembre 89, les gardes-frontières laissent passer la foule. L'Europe vient de changer de face.
Et puis autre plan pour ce week-end, si ce n'est pas les livres, c'est le cinéma. Le printemps du cinéma est de retour à partir de demain et jusqu'à mardi. C'est 4 euros la séance et c'est plutôt une bonne idée au vu du temps qu'il fait.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
On ne peut pas dire que ce soit la fête dans le ciel, même si ça devrait s'améliorer dans les prochaines heures, Jean-Michel Golinski.
Amélioration aujourd'hui sous un ciel bien dégagé du sud-ouest à Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Des éclaircies sur la façade ouest entre la Bretagne, la Basse-Normandie et le Poitou-Charentes. Et quand même souvent une prédominance de nuages sur un grand quart nord-est. Le vent sera toujours très turbulent dans la moitié nord du pays, le tout dans des températures confortables cet après-midi, de l'ordre de 15 degrés en moyenne dans la partie nord, 20 dans la moitié sud, comme par exemple à Lyon, Montélimar et le long de la Garonne. La nuit prochaine, des précipitations vont arriver par la Manche, puis traverser rapidement le pays. Elles seront suivies d'un air plus frais dans un ciel agité demain, ponctué de giboulées, par moments accompagnées de rafales, de grésils et d'orages.